Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Calibre.
L'émission de Libre Antenne sur Radio Kaléidoscope 97 FM.
Calibre où, comme vous, nous sommes emmitouflés dans nos bonnets, nos écharpes. Il fait froid dans le studio ce soir, contrairement à d'habitude.
Alors voilà, émission de Libre Antenne, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez une question, si vous avez un coup de gueule, une envie de parler avec nous, de discuter avec nous sur un peu nos thèmes favoris, amour, gloire, beauté.
Non, c'est pas ça. Non, pas la gloire, pas la gloire. La beauté à la limite, on peut interroger la
quoi
beauté.
Qu'on pourrait questionner ça, qu'est-ce que c'est?
C'est quoi être beau, belle? Donc ouais, bon, voilà.
Le corps quoi, le finalement. Corps. Ah, tu vois, j'étais pas si loin.
Ouais, c'était la gloire, je sais pas. La... Bon, en tout cas, sexualité, corps, relations affectives, n'hésitez pas à nous appeler au 04 76 09 09 09. Ce soir, qui est à Calibre? Alors, en technique, nous avons Mélanie. Pour recevoir vos nombreux coups de fil, nous avons Greg avec nous ce soir. Et puis à l'antenne, Marina et Myriam.
Alors, on va s'écouter un premier petit morceau de musique, un morceau de Colette Renard qui s'appelle « Les nuits d'une demoiselle » et on se retrouve juste après.
Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer les crevisses, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Merci Colette Renard sur Calibre Radio Kaléidoscope pour ce petit inventaire de toutes les expressions pour dire je baise. Enfin toutes, pas toutes, mais un certain nombre d'expressions assez imagées. Je me fais nourrir le hérisson.
Oui, c'est assez imagé, effectivement.
Faut réfléchir un peu. Mais moi, est-ce que j'ai quand même envie de noter que tout le long, c'est je me fais quelque chose. Et je trouve que ça indique quand même une certaine posture passive un peu.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est pas je fais, c'est je me fais. Enfin. Ah, bon, ça me questionne. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais alors dans la série expression un peu imagée ou terme qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait un petit jeu calibre.
Oui, un petit quiz. Là, on vient d'aller demander à l'équipe technique une idée de quiz et nous avons un superbe mot. Et alors attendez, d'abord, qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Parce qu'un quiz comme ça, dans l'absolu, tout le monde s'en fout. Alors ce que vous pouvez gagner, c'est un merveilleux livret sur le merveilleux Cunnilingus.
Livret poster,
oui, oui, non, ah, mais c'est un objet magnifique, magnifique. Qu'on vous envoie, frais de port payés ou trouvés voilà. jusque chez vous. Alors, voici la question.
Mais pour cela, il faut répondre à qu'est-ce que c'est que...
L'axilisme.
A-X-I-2-L-I-S-M-E. Axilisme.
Deux L ou un, c'est pas sûr.
Sérieux, cherchez pas sur Internet.
Ah ben non, ça c'est pas drôle.
Non, on a le droit de tricher. Mais enfin, c'est plus drôle d'essayer de deviner qu'est-ce que ça peut être, axilisme.
Si vous trichez, d'abord vous nous racontez ce qui vous est passé par la tête avant de trouver la réponse, qu'on rigole un peu.
04 76 09 09 09, vous pouvez nous appeler que ce soit pour nous expliquer ce que c'est que l'axilisme ou pour parce que vous avez envie de parler avec nous.
Voilà.
Nous, pour commencer... On avait envie de parler consentement. Alors, ce que on avait envie de partager avec vous des paroles qui sont sorties d'un atelier, enfin pas des paroles, mais un truc qui est sorti d'un atelier sur le consentement. Et on a fait un brainstorming en fait avec trois questions sur ces questions. Donc, le consentement, c'est le fait d'être d'accord, pleinement d'accord pour avoir, en l'occurrence, là il s'agit de sexualité, un rapport sexuel. Hein. Donc trois questions et on trouvait, en fait ce qui est ressorti, on trouvait ça vachement intéressant, on avait envie de le partager avec vous un peu sous forme de liste, en gardant cette forme-là, parce que ça nous semblait parlant et propice à réfléchir. Et voilà, pour nous c'est une réflexion, hein, c'est quelque chose, un travail permanent de réfléchir à comment dans nos rapports si l'on a des rapports sexuels avec d'autres personnes, comment on s'assure de leur plein consentement ? C'est pas si simple.
Non.
Et donc voilà, on avait envie de partager avec vous ça pour réfléchir, quoi. Je pense que c'est des réflexions que ça vaut le coup de mener à long terme, quoi. Mmh.
Voilà, du coup, on va vraiment juste vous balancer comme ça, non, vous dire un petit peu les phrases qui sont sorties, peut-être en s'arrêtant de temps en temps s'il y a des choses qui ne sont pas très très claires.
Voilà. Alors d'abord, j'ai envie de dire les trois questions à la suite. C'était: comment peut-on être sûr du consentement de nos partenaires ? Comment reconnaître le non-consentement, le fait que nos partenaires ne sont pas consentants ou consentantes ? Et les mécanismes pour faire céder, obtenir un consentement. Alors ça, on expliquera après parce que c'est un peu ambigu comme formulation. Ouais. Alors, mais la première liste, un peu, c'est: comment peut-on être sûr du consentement de nos partenaires ? Y a-t-il des choses qui nous permettraient d'être sûrs ?
Alors, première chose, on peut le demander explicitement, c'est-à-dire poser la question: est-ce que tu es d'accord, que ce soit avant l'acte sexuel, disons pendant, même à plusieurs moments, ou même après, une sorte de petit bilan de est-ce que tout s'est bien passé.
Obtenir donc une réponse claire, par exemple un oui.
Attendre la proposition de l'autre, attendre l'initiative de l'autre. Si on se retrouve souvent en position d'initier un rapport sexuel, ça vaut le coup peut-être d'attendre que ce soit l'autre qui propose.
En discuter en dehors des moments sexuels, pour que ce ne soit pas toujours lié à cet enjeu-là. Enfin, c'est toujours lié à cet enjeu, mais pour que l'enjeu ne soit pas présent.
Oui, qu'il n'y ait peut-être pas le désir qui peut fausser des fois un petit peu des choses et tout voilà. Ça. Ensuite, comprendre ou reconnaître les signes non-verbaux. Donc les signes non-verbaux, ça va être les gestes, les postures du corps. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qu'on exprime avec des mots, mais ce qu'on peut exprimer avec son corps, en fait.
Avec des partenaires réguliers et régulières, définir des codes. Alors, il y avait cette idée du code tricolore.
Bah, alors, c'est plutôt un code qui est utilisé, en fait, pour... j'ai envie de dire, pour tester des trucs ou quoi dans les relations sexuelles, pour quand on n'a pas envie de parler spécifiquement, mais que quand même c'est intéressant de pouvoir signifier à l'autre est-ce que ce qui est en train de se passer, ça nous plaît, on a envie que ça continue, on voudrait plutôt que ça passe à autre chose et tout. Et du coup, il y avait cette idée de, on va dire, carton vert, c'est génial, continue. Carton orange, oui, bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus super top. Et du coup, le carton rouge serait un truc qui dirait, ben non, là, ça va pas, faut arrêter, quoi.
Être hyper attentive dans nos propositions de gestes au consentement de la personne.
Alors, négocier avant le rapport sexuel sur ce qu'on veut faire.
Une écoute attentive tout le long, et pas seulement au début.
Être attentive aussi à la démonstration du plaisir de l'autre.
Sachant que la question du plaisir vaut le coup de discuter de quels critères on évalue le plaisir de ses partenaires.
Être dans une posture qui permette de pouvoir s'arrêter.
Accepter de pouvoir s'arrêter à tout moment.
Voilà, c'est-à-dire ne pas s'engouffrer dans un acte où après on ne contrôlerait pas, où on n'aurait pas envie de contrôler, mais bien pouvoir à chaque moment, n'importe quand, de pouvoir s'arrêter sans que ce soit un drame, quoi.
Marquer des pauses, laisser la possibilité de s'arrêter de temps en temps. Moi, j'aime bien l'idée des pauses. On peut dire, ça va, au fait, ça va. Tu veux qu'on fume une clope, qu'on discute
Oui, oui, qu'on ne s'engouffre pas dans un tunnel. Oui, voilà. Qu'elle en ressortira quand ce sera fini, quoi.
On peut s'arrêter de temps en temps, en discuter, c'est pas forcément d'une seule voix, quoi.
S'empêcher d'initier un rapport quand son ou sa partenaire est en train de dormir. Sauf si ça a été négocié avant, que c'était une éventualité de se faire réveiller par du sexe.
Mais sans accord explicite, et puis juste avant, enfin cette ouais. fois-là, moi, je pense que faut vraiment se questionner quand on a envie de faire ça. Hein. Je pense qu'il y a de fortes chances que la personne ne soit pas consentante tout de même.
Bah, personnellement, si je dors, je dors. Ouais, j'ai pas envie
d'autre chose. Qu'on me fasse chier. Ouais, bon, à voir, hein. S'empêcher d'initier un rapport quand soi-même on est dans un état second. Alors ça c'est pareil, c'est une réflexion. Est-ce que quand on a bu beaucoup d'alcool ou quand on a consommé des produits psychoactifs, comme on dit, c'est-à-dire qui modifient notre état de conscience, notre contrôle de ce qu'on fait, est-ce que c'est le meilleur moment pour initier un rapport sexuel
Bon, avec toute cette ambiguïté que des fois on a besoin aussi d'alcool pour
se désinhiber. Voilà. Effectivement, donc ça questionne, mais est-ce que c'est un moment où, est-ce que quand on est alcoolisé ou avec d'autres produits psychoactifs, on sera capable d'entendre si notre partenaire n'est pas d'accord pour quelque chose? C'est ça la question derrière.
Bah, donc la deuxième question, c'était comment reconnaître le non-consentement, pour le coup.
Donc comment reconnaître que la personne avec qui on a des rapports n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Donc pareil, c'est une liste d'outils, il ne faut pas forcément les prendre au pied de la lettre, au sens où je trouve que, effectivement, en fonction du consentement de la personne, certaines choses qu'on va dire peuvent paraître des manifestations qui peuvent aussi exprimer du désir. Mais c'est bien, ce qu'on parle, c'est avant tout d'avoir beaucoup discuté avec ses partenaires, de savoir, d'apprendre à se connaître. Mais c'est une liste de choses qui potentiellement peuvent exprimer.
Peuvent mettre la puce à l'oreille, ouais.
Peuvent mettre à la puce à l'oreille que peut-être il y a un souci.
Et moi, j'ai envie de dire, pour le coup, dans le doute, on s'abstient. Quoi. Si on n'est pas
doute,
sûr,
on questionne.
Voilà.
On se demande.
Oui, oui, oui. On s'abstient d'intervenir avant consentement explicite, si on n'est pas sûr. Quoi. Ouais.
Alors, l'hésitation. Je sais pas, je suis pas sûre.
L'autre personne prend du recul ou se détourne physiquement.
Il n'y a aucune réaction. Immobilité, passivité, absence. Une certaine forme d'absence chez la partenaire ou le partenaire.
La personne dit non. Bon, ça c'est assez clair. Mais peut-être plus tard, on verra.
La personne ne dit rien. Elle garde le silence.
Il y a une gêne.
La personne parle d'autre chose, elle détourne le sujet, elle fait autre chose.
Elle ramasse la cire de bougie qui est tombée sur la table de nuit, par exemple.
Bon, on rigole, je pense aussi parce qu'il peut y avoir une certaine nervosité Ah, mine de rien, brasser ces questions-là, en vrai, c'est pour bien être clair avec nos auditeurs, auditrices, qu'on est très sérieuses, mais bon, voilà. Ça peut nous faire rire tout de même.
La personne détourne le regard.
La personne a des excuses. J'ai mal à la tête. J'ai eu une journée hyper chargée. Je pense à mon programme de demain.
Là où le partenaire exprime de la douleur.
Là où le partenaire ne montre pas d'excitation.
Alors, bon, là, on avait une petite discussion là-dessus sur comment ça se manifeste l'excitation, parce que c'est pas la même chose d'une personne à l'autre. Traditionnellement, on a en tête qu'une femme excitée, c'est une femme qui mouille, par exemple.
Et qu'un homme excité, c'est un homme qui bande.
Sauf que, ben, en fait, le lien, il est pas du tout systématique, mais toutes les configurations sont possibles.
Une femme peut ne pas mouiller et être excitée, ou vice-versa, mouiller et ne pas du tout être excitée.
Tout comme mouiller et être excité, et ne pas mouiller et ne pas être excité. Donc, bref, c'est pas un signe sur lequel on peut vraiment...
Un homme peut être excité, mais ne pas bander.
Tout à fait. Tout comme il peut bander sans désirer un rapport sexuel, je pense.
Il y a aussi le fait de souffler, de soupirer.
Ou de tourner en dérision, ce qui est en train de se passer, ou d'autres choses.
Une certaine forme d'agressivité. Enfin, oui, de l'agressivité, quoi.
Oui. Un état de conscience pas pleine et entière. Donc, c'est ce qu'on disait, hein, que la personne est en train de dormir, ou a bu de l'alcool, ou a pris des drogues, ou d'autres choses qui modifient l'état de conscience.
Peut-être que ça demande d'être particulièrement vigilant ou vigilante à est-ce qu'elle est vraiment d'accord avec ce qui est en train de se passer. Que ce soit pas une évidence quand la personne est dans un état de conscience... moindre. La personne pleure, ça, alors là, je m'arrête, parce que ça peut paraître une évidence, mais ça ne l'est pas. C'est tellement facile de ne pas voir que son ou sa partenaire pleure, parce qu'on est, parce que je ne sais pas où vous êtes. vous êtes en train de baiser, là, et vous ne vous rendez pas du tout compte qu'elle est en train de pleurer.
Bon, après, il y a aussi la réaction, j'ai envie de dire, physique du pleur après avoir joui qui peut arriver aussi et qui n'est pas forcément signe qu'on ne désirait pas le rapport.
Oui, oui, mais moi, ça, c'est du vécu. Hein.
Oui, oui, non, mais je n'en doute pas.
Oui, oui, oui.
Ouais, on est souvent quand même concentré quand il y a une envie d'acte sexuel. On n'apprend pas vraiment à
regarder l'autre.
Voilà.
C'est triste. Hein.
Oui, c'est
bon.
Comme ça. Enfin non, alors, il faut que ça change.
Pas de cohérence dans les propos. Je sais pas, je suis pas sûre, je dis une chose, je dis l'inverse. Voilà, il y a un truc de tout mélanger là, peut-être on peut se dire, tiens, ça n'a pas l'air très clair ce que cette personne veut.
Et enfin, un signe assez clair de non-consentement, c'est quand la personne le dit après coup.
En fait, j'avais pas envie de ce qui vient de se passer. Eh bien, bon, c'est peut-être fait, mais il faudra assumer maintenant et assurer et peut-être voir qu'est-ce qu'on fait maintenant.
Oui, et ne pas balayer d'un revers de main en disant « Oh, bah, t'avais qu'à le dire avant. »
Tant pis pour toi. Alors enfin, une liste que je trouve assez intéressante. Donc on a appelé les mécanismes pour faire céder, pour obtenir un consentement. Alors soyons bien clairs, ce qu'on va vous donner maintenant, ça n'est pas un mode d'emploi pour réussir à convaincre votre partenaire de baiser. C'est bien plutôt une liste de choses dans lesquelles on peut tous et toutes se reconnaître, je pense. Quelles sont les choses qu'on met en place plus ou moins consciemment quand on a du désir et que nos partenaires n'en ont pas forcément. Et ça invite plutôt à se questionner et à y faire gaffe et à peut-être...
Et à ne plus utiliser tout ça.
Ces mécanismes. Voilà, soyons bien clairs sur notre intention face à cette liste.
Ok, bon, alors un des premiers mécanismes, c'est le chantage affectif.
Inciter nos partenaires à boire, à prendre des drogues.
Puisqu'on sait que derrière, ils sont plus disponibles. Insister, réitérer la demande plusieurs fois, alors qu'on nous a déjà dit non.
Culpabiliser. Tu me rends triste. C'est toi qui me rends fou. C'est toi qui me rends folle.
Exprimer très fort son désir.
Dévaloriser l'autre.
Insister physiquement.
Pleurer. Tu ne m'aimes pas. Confondre amour et sexualité.
Dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps, que c'est maintenant ou jamais, parce que après je repars travailler.
Utiliser le reproche.
Montrer son agacement, souffler.
Faire la gueule, le chantage à la mauvaise humeur, le chantage même à la mauvaise ambiance dans le couple, où du coup le ou la partenaire va se sentir un peu forcé de baiser parce qu'elle sait que, ou il sait qu'après l'ambiance sera meilleure, que sinon ça va être, ça va pas être la teuf, quoi.
Revendiquer ou en tout cas bien faire comprendre que là ce qui se passe c'est une pulsion incontrôlable et en plus que c'est l'autre qui l'a suscité.
Essayer d'acheter l'autre par des cadeaux, des compliments.
Lui dire qu'il ou elle ne veut jamais, que quand même pour une fois ça serait bien d'accepter que c'est un ou une égoïste.
Le menacer de l'abandon, la menace de l'abandon.
Ne pas se poser la question, c'est une évidence, c'est la force de l'habitude.
Au contraire de ce qu'on disait tout à l'heure, survaloriser l'autre, la couvrir de compliments, de petites attentions, alors qu'elle a déjà dit non.
Minimiser les conséquences. Oui, bon, tu peux te forcer un peu, ça va pas te tuer, quoi.
Le chantage à la libération sexuelle. Ah, mais quand même, on n'est pas coincé, donc là, ce serait peut-être plus pour faire accepter certaines pratiques.
Utiliser d'autres personnes pour qu'elles fassent pression sur son ou sa partenaire.
Et l'humiliation publique. Genre les blagues au repas avec les potes ou avec la famille.
Donc voilà, c'est vraiment juste une petite liste qui est sortie d'un moment particulier, hein, il y a quelques temps de ça. Elle n'est pas du tout exhaustive, sans doute. Bon, j'ai l'impression qu'on a toutes été en situation et tous de pas être sûr du consentement de nos partenaires, en fait, en vrai. De pas se poser la question aussi clairement. Et du coup, je pense que tout un chacun, on a de quoi réfléchir, en fait, sur ces questions-là. Hein.
Voilà, nous c'est une liste qu'on vous propose. Ce qu'on vous propose surtout, c'est d'y réfléchir vous-même, seul, avec vos partenaires, avec vos amis, et peut-être de prendre des temps aussi soi-même, d'essayer de lister des choses. Voilà, c'est des outils hein, pour avancer. On peut aussi vous conseiller une brochure qui est trouvable sur Internet et qui est un peu dans la même série de poser des questions.
Oui, c'est une brochure qui s'appelle « Le consentement sans questions sur les interactions sexuelles ». Je vais vous lire leur petite intro. Le but de ces questions est d'élaborer une réflexion sur les interactions sexuelles et la notion de consentement. Nous vous invitons à vous les poser réellement et profondément, en prenant le temps et sans être sur la défensive, afin qu'elles puissent réellement enclencher des processus de réflexion qui seront bénéfiques tant pour vous que pour vos partenaires et dans le milieu dans lequel vous évoluez. Donc il y a vraiment 100 questions hein, qu'on peut prendre une par une et tâcher d'y répondre pour soi-même. Voilà, cette brochure, elle est trouvable sur infokiosque.net. Donc pas les www avant là, mais infokiosque, infokiosque.net. .net. Voilà, mais on mettra encore une fois les liens sur le site de Calibre.
Alors, on va s'écouter un petit morceau de musique. Avant ça, on relance notre petit quiz du soir. Qu'est-ce que l'axilisme ? Axilisme, qu'est-ce que c'est ? Si vous connaissez la réponse, vous pouvez nous appeler au 04 76 09 09 09. Il y a une petite brochure sur le cunnilingus à gagner.
Voilà, n'hésitez pas à rebondir aussi sur ce qu'on vient de dire, sur la question de consentement ou sur des émissions passées que vous auriez entendues il y a quelque temps, plus ou moins longtemps.
On vous laisse avec La Femme Bionique, Edith Nylon. On se retrouve juste après.
Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission de Libre Antenne Calibre sur 97 FM à Grenoble, Radio Kaléidoscope, et puis partout en France et dans le monde sur Internet, en direct ou quand vous voulez, pour écouter les émissions qu'on met sur le site. Hein.
Donc notre site k-libre.poivron.org.
Voilà, K c'est C-A-S et libre c'est au pluriel, avec le tiret du milieu entre les deux.
Voilà.
Voilà, là on va vous parler un petit peu. Oui, bon, déjà.
Ah oui.
Déjà, on se disait pendant la musique qu'on était un peu plombé là par le petit passage sur le consentement. Ça fait toujours ça. C'est pas drôle, hein. Mais à la fois, tant qu'il y aura besoin d'en parler, on en parlera.
Voilà. Mais on avait envie de formuler ce truc de ben on partage. Enfin, peut-être que les gens qui nous écoutent se disent un peu oulala. Et ben voilà. Nous aussi, ça nous fait ça. Bon, ça nous empêchera pas aussi de pouvoir parler. À Calibre régulièrement de trucs un peu fun aussi, hein, puisque ça fait aussi partie de ces thématiques-là, de pouvoir parler de trucs amusants, mais...
Mais pas toujours.
Mais pas toujours. Voilà, donc on enchaîne.
Sur un truc pas très amusant. Merde.
Bon, oui.
Non, c'est pas vrai. On a reçu un mail d'une amie qui... Voilà, qui réagissait suite à une sur les questions de contraception et d'avortement, qui réagissait suite à la rencontre d'une personne avec qui elle a discuté. Mais peut-être le mieux, c'est de lire un petit peu le mail et puis on en discute après.
Alors, hello, voilà une réponse que j'ai faite à une copine qui me soutenait récemment qu'une fille qui tombait enceinte sans le vouloir était une irresponsable, incapable de prendre une pilule correctement. Alors je me suis laissée surprendre par ce discours aussi culpabilisateur, réactionnaire et surtout très peu informé, mais cela m'a rappelé la réalité de la pensée ambiante actuelle, j'avais encore oublié. En ce qui me concerne, j'ai déjà eu recours à une IVG, mais pas pour cette raison de pilule machin, parce que des raisons de ne pas maîtriser sa contraception, il y en a des milliers. La pensée majoritaire de la population est la culpabilisation des femmes incapables ou idiotes. Malheureusement, la réalité est autre, puisque une femme sur deux en France a recours au moins une fois dans sa vie à une IVG. Alors, deux choix possibles, soit la moitié des femmes françaises est idiote, ce qui a tendance à me désespérer, soit l'accès à une contraception adaptée n'est pas encore au point pour nous.
Bon, laissez-moi vous dire que nous, on part plutôt sur la deuxième proposition.
C'est-à-dire que l'accès à une contraception adaptée, c'est pas encore le cas pour les femmes en France. Ce qui veut dire qu'il y a un petit problème avec les médecins.
Oui, c'est ça. C'est qu'il y a des problèmes je pense, de connaissance, hein, de comment fonctionnent les différents types de contraception. En tout cas, de connaissances transmissibles. C'est-à-dire, peut-être qu'ils savent... Bon, la plupart, ils savent, hein, ils ont dû apprendre ça. Mais après, ils ne vont pas faire la démarche d'expliquer aux personnes, aux femmes qui viennent les voir comment ça marche. Ou rarement.
Moi, je veux bien que ce soit un problème peut-être de connaissances transmissibles. J'ai toujours envie de voir quand même, au-dessus de ça, une volonté politique pour moi de... Alors peut-être qu'elle n'est pas consciente, mais pour moi, derrière tout ça, il y a quand même une volonté politique de maintenir les femmes dans un état de méconnaissance de ce qui a trait à leur corps, à la maîtrise de leur fécondité et à qu'est-ce qu'elles pourraient bien faire pour... pouvoir avoir une maîtrise de leur fécondité qui leur convient pleinement. Enfin, ça peut pas juste être un truc par hasard, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas une politique de santé en France qui permet vraiment d'informer, qui donne les moyens d'information correctes aux femmes, quoi. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien, effectivement. Bon, le planning familial, un certain nombre d'associations éditent des brochures et tout, quand même, pour informer, mais... Je pense que quand on va voir un médecin pour sa contraception, on nous donne... Bon, enfin, c'est pas pour rien que la majorité des femmes qui veulent une contraception en France prennent la pilule. Je suis pas sûre que ce soit parce que la pilule est le meilleur moyen de contraception.
Oui, non, rarement on nous explique les différents moyens, justement. On prend le temps de nous expliquer tous les moyens de contraception qui existent, parce qu'il en existe quand même pas mal, qui sont pas parfaits, chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais c'est vrai que si on fait l'économie de connaître un petit peu les différents moyens et puis comment ils marchent, forcément, ça va pas. Notre contraception, elle sera pas géniale parce qu'on n'aura pas décidé en connaissance de cause de quoi on a besoin à ce moment-là de notre vie. Parce que bon, notre sexualité change au cours de la vie, donc on doit pouvoir changer de contraception, en essayer plusieurs, et ça, c'est vrai que c'est compliqué, c'est un peu le parcours de la combattante hein, pour imposer ses choix en termes de contraception, alors que ça concerne nos corps, quoi. Et puis bon, après il y a toute cette culpabilisation ambiante, effectivement, où aujourd'hui il y a un peu ce truc de ah bah il y a la pilule, du coup, t'as qu'à prendre ta pilule correctement et tu tomberas pas enceinte sans le vouloir, donc tu iras pas avorter. Or, bon, bah il y a des soucis avec la pilule, même quand elle est prise correctement par les personnes, ça je vous en parlerai un peu plus tard. Et puis surtout en 40 ans de fécondité de je sais pas combien de jours par mois, forcément il y a plein de c'est beaucoup d'occasions de d'être enceinte alors qu'on veut pas poursuivre une grossesse, quoi. Et à un moment
ce que tu veux dire, c'est que dire à une femme qui pendant 40 ans gère sa fécondité pour une femme qui a des rapports hétérosexuels, que si elle tombe enceinte si elle a une grossesse non désirée une fois dans sa vie, on va lui parler d'échec à la contraception
alors que c'est une sacrée réussite, quoi.
Voilà, donc c'est un peu questionner ce truc d'échec à la contraception, la culpabilisation des femmes qui ne géreraient pas bien leur fertilité, alors que effectivement c'est quand même un sacré boulot, quoi.
Oui, puis je crois qu'en France, on a vraiment aussi beaucoup ce lobbying des médicaments et donc de la pilule, des laboratoires. Parce que dans d'autres pays où ça se passe pas comme ça, c'est pas du tout la pilule qui est le premier contraceptif. Et il y a plein d'autres méthodes que nous, on a un peu abandonnées, ou voire où il y a des fausses informations qui circulent. Je pense notamment au DIU, au dispositif intra-utérin, qui est le stérilet, enfin l'autre nom du stérilet, mais qu'on change parce que stérilet ça rend stérile alors que non, quoi. Du coup ça participe de cette mauvaise image qu'a cette méthode contraceptive. Là juste j'ai 4 phrases qu'on entend dire et qui sont fausses. Que on ne peut pas utiliser un DIU comme première contraception, et notamment qu'on peut pas en mettre, et aussi qu'on peut pas en mettre aux femmes qui n'ont pas eu d'enfants. C'est faux et c'est faux.
C'est faux et c'est faux, mais pourtant, c'est pas facile de trouver un gynéco, un ou une gynéco qui acceptera de nous poser donc un dispositif intra-utérin, un stérilet, si on n'a pas eu encore d'enfant. Si on est nullipare, comme ils disent. J'aime pas ce mot.
Non, c'est horrible.
alors qu'effectivement, il n'y a pas de validité médicale réelle à refuser de poser un stérilet à une meuf qui n'a pas fait de gosse, quoi.
Et même le stérilet... Enfin, il y a 2 types de stérilet. Il y a un avec des hormones et puis un avec du cuivre qui est spermicide, en fait. Le cuivre qui va tuer les spermatozoïdes. Et le cuivre, il y a 2 tailles. Il y a même une taille exprès qui s'appelle le short, qui a été spécialement conçu pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Donc c'est un peu une aberration de s'entendre dire ça tout le temps, quoi. Pareil pour... en fait, il y a vraiment de réticence à proposer le stérilet aux femmes. Et là, par exemple, j'ai lu qu'on ne me pose pas de stérilet à une femme qui a une césarienne. Alors que médicalement... J'ai pas eu les raisons, parce que du coup, c'est pour critiquer ces trucs. Ouais. Mais
je vois pas le rapport...
Alors que
césarienne, oui, ça veut dire qu'on a ouvert l'utérus, pour sortir de.
Mais je crois que c'est un peu cette idée fausse que le stérilet
provoquerait
une inflammation, or que c'est pas ça. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Même celui au cuivre ne provoque pas une inflammation de l'utérus. C'est une idée reçue.
Et du coup, même les médecins chinois, en fait, ils le posent si la personne est d'accord, le demande. Chinois, en Chine, ils font la césarienne et ils posent le stérilet avant de recoudre l'utérus, quoi. Comme ça, c'est fait, en fait. Du coup,
sans passer par le col de l'utérus.
Oui. D'ailleurs, autre information. C'est le col de l'utérus qui me fait penser, c'est que globalement, on en chie un peu pour se faire poser un stérilet, hein, parce que il y a une technique qu'il faut pincer le col de l'utérus pour faire passer le stérilet, et en fait, il n'a pas besoin de faire souffrir pour poser un stérilet, ça aussi, mais ça on ne sait pas.
J'ai appris ça, je vous en parlerai après, mais oui, apparemment, ça facilite le travail du médecin de pincer le col pour ouvrir un peu mieux, je pense que c'est ça. Mais ce serait pas indispensable. Non.
Il y a un Martin Winkler, donc on va vous parler, qui propose aux médecins qui le veulent de le contacter pour qu'il leur explique la technique indolore pour poser un stérilet.
Bah, contactez-le.
Voilà. Pareil, souvent les médecins refusent de poser un DIU à une femme qui a une grossesse extra-utérine. Parce qu'on...
Qui en a déjà eu
une.
Pareil. Alors moi, j'ai déjà entendu cette... Alors, ça, c'est pas vrai, parce que moi, j'ai déjà entendu l'info que le stérilet augmentait les risques de grossesse extra-utérine.
Alors, moi, j'ai pas lu ça comme info. Ce que j'ai lu, c'est que il y a des tendances de femmes qui vont faire des grossesses extra-utérines et la meilleure protection pour elles, c'est de ne pas être enceinte. Et du coup, pour ne pas être enceinte, le stérilet, c'est bien plus efficace qu'une pilule, par exemple.
D'accord. Donc, en fait, ce serait une idée reçue.
Ouais, voilà. D'accord. Ainsi que si on a eu une infection des trompes, toujours dans cette idée que le stérilet provoquerait des infections, comme c'est faux, en fait, il n'y a pas du tout de contre-indication à mettre ou remettre un stérilet 3 mois après la fin du traitement qu'on a pris contre cette infection des trompes, s'il n'y a pas de séquelles, quoi.
Ouais, alors, ça veut dire qu'une femme qui a eu une grossesse extra-utérine alors qu'elle était sous stérilet, puisque ça existe, hein, de croire que c'est à cause du stérilet qu'elle a eu ça, ce serait faux.
Oui, ça serait pas à cause du stérilet. Par contre, moi, je conseillerais de tenter d'autres méthodes. Si on est tombé enceinte sous un contraceptif, autant essayer autre chose. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait, qui est pas adapté à, je sais pas, nos hormones, notre physionomie, peu importe. Mmh. Voilà. Tu veux nous expliquer un petit peu ce truc de pause de DIU sans douleur, non hein.
Ah, pas plus moi, que... Moi, en fait, je sais juste que j'ai compris que c'était possible. Je me suis dit, mais si c'est possible, pourquoi ne pas tout le temps faire comme ça? Toi, tu sais?
Non, je sais pas, puisqu'il ça a l'air d'être une technique quand même.
Oui,
hein, il raconte
voilà,
pas...
Moi, je suis pas poseuse de DIU dans la vie, alors j'en sais rien.
voilà, et sur cette question de pilule, du coup, qui serait plus efficace que d'autres, encore dans les idées reçues, notamment en France, en fait, les pourcentages d'efficacité qu'on a, c'est des pourcentages de laboratoire, de tests en laboratoire, donc pas avec des vraies personnes dans les vraies conditions de la vie réelle. Et en vrai, si on regarde les chiffres qui correspondent à une utilisation réelle, on va dire, dans la vie de tous les jours, il y a 8%, de toute façon, il y a 8% d'échecs sous pilule, donc c'est pas les 100% dont on nous bassine 100% d'efficacité.
99,8%.
Voilà.
Quoi.
Et les échecs, ils sont dus, ça peut être à des oublis, mais aussi à des effets indésirables qui conduisent à arrêter cette pilule, à des interactions avec des médicaments. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Mais en gros, ça veut dire qu'il y a 10 fois plus souvent d'échecs sous pilule qu'avec avec un implant ou un stérilet, par exemple. Il y a 10 fois plus souvent, j'ai arrêté de dire échecs, de grossesse non désirée sous pilule que si on prend comme contraceptif un implant ou un stérile.
Alors, ça se trouve, je te pose une question piège, vu qu'on ne l'a pas préparée avant. Ils viennent d'où, ces chiffres?
Tout ça, c'est le site de Martin Vinclair.
Très bien, on
parlera
après.
Voilà. Et lui, il dit qu'internationalement, les 6 méthodes reconnues les plus efficaces en conditions réelles, du coup, c'est l'implant, le DIU au cuivre, le DIU hormonal. Ça, c'est les 3 méthodes les plus efficaces. Et ensuite, en dessous, viennent la pilule, les patchs et les anneaux contraceptifs, qui sont les 3 méthodes qui, vraiment, en France, sont poussées par les médecins.
Voilà. Donc, on peut imaginer par les laboratoires pharmaceutiques. Hein, parce que
oui.
C'est quoi la différence entre...
Quiz.
Alors, quelle est la différence entre un implant qu'on pose tous les 3 ans et la pilule qu'on prend tous les jours? Tiens, si on en achetait plus souvent.
Ouais,
et puis l'anneau vaginal, bon, effectivement, qui a certains intérêts. Hein, je ne veux pas en faire la contre-publicité. Je comprends tout à fait que certaines femmes choisissent cette méthode. Mais c'est quand même une méthode qui nécessite de payer 16 € tous les mois. Quoi.
Ouais. Sans être remboursée.
En plus.
J'ai un peu des infos concrètes sur ces histoires de pilules. Qu'est-ce qui peut compromettre l'efficacité des pilules?
On s'écoute un petit morceau de musique et puis on parle du coup de comment, de pourquoi on peut tomber enceinte sous pilule.
Oui,
c'est ça,
c'est
finalement.
C'est ça.
Et on n'a qu'à écouter. Qu'est-ce qu'on écoute?
Alors, qu'est-ce qu'on va écouter? Oh, bah tiens, on va changer de sujet. On va s'écouter The Rocky Horror Picture Show, Creatures of the Night. I was feeling done in. Couldn't win. I'd only ever kissed before. You mean she? I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting. Now all I want to know
knows how to go. I've tasted blood and I want more. I'll put up no resistance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch, 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 touch me.
Toujours à l'écoute de Calibre, l'émission de Libre Antenne sur les questions d'amour, de rapport au corps, de sexualité, Radio Kaléidoscope 97 FM ou sur en téléchargement libre sur notre site internet k-libre.poivron.org. Vous pouvez nous écrire, alors on préfère toujours que vous nous appeliez, hein, 04 76 09 09 09. Je suis speed dans mes infos. Mais vous pouvez nous écrire aussi à k-libre@poivron.org. Et alors, on reprend là où nous en étions et nous parlions de... Ah oui, alors cette grande question. Mais comment c'est possible de tomber enceinte en prenant sa pilule ? Non, mais moi, je crois qu'en fait, la fille, elle ment, tu vois. Elle dit ça, mais en vrai, elle ne veut pas avouer qu'elle ne l'a pas prise.
Bah oui,
ou
oui.
Alors, en fait, tu sais pas, elle a vomi.
Non, il y a plein d'autres choses.
En général, les filles, elles mentent pas. Et si ouais. elles mentent, c'est pour une bonne raison.
Ouais. Non, en fait, bon, c'est pas des choses que j'invente. Hein, c'est tiré d'un lien que donc notre ami nous avait envoyé. Et ce lien, c'est le site de Martin Vinclair.
Qui donc, c'est ce Martin
donc,
Vinclair
on vous a déjà parlé. C'est un généraliste gynécologue et qui a vraiment beaucoup bossé sur les questions de contraception, d'avortement, de sexualité. Qui a écrit plusieurs bouquins. Il y a contraception, mode d'emploi. Il y a comment bien choisir, enfin bon, bref, des histoires de contraception. Il a un site internet avec des questions-réponses qui sont denses, mais où vraiment, si vous avez des infos à rechercher sur les méthodes de contraception, allez-y, plongez-y dedans. Et il a aussi écrit des romans pour parler de tout ça sous des formes plus sympathiques. Enfin, plus sympathiques, romancées, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'il dit sur la pilule ?
Alors, qu'est-ce qui peut compromettre l'efficacité de la pilule contraceptive ? La première des raisons, c'est quand la pilule n'est pas adaptée à la femme qui la prend. Alors, je vous passe pour l'instant les mécanismes, parce que je vais pas, si je parle là-dedans, je vais vous raconter que ça. Et puis, on en a déjà un petit peu parlé, mais une autre fois, si vous voulez, on pourra en reparler de comment ça marche. Mais en gros, il y a plusieurs effets dans les pilules, suivant quel type de pilule on prend. Est-ce que c'est une pilule combinée ou pas ? Et notamment, un des effets, c'est de bloquer l'ovulation. Donc, qu'il n'y ait pas d'ovules qui sortent pour qu'ils ne puissent pas être fécondés. Sauf que, en fait, au plus on est jeune, au plus on ovule fortement.
On a une fertilité voilà. Un peu au top du top.
Voilà. Et donc, au plus on est censé, pour une efficacité de la pilule contraceptive, prendre des pilules qui sont plutôt plus dosées que d'autres. Sauf que la mode est de donner des pilules mini-dosées aux jeunes pour une première contraception. Et du coup, ça ne bloque pas forcément l'ovulation et donc grossesse.
Pas assez efficace.
Ouais.
quand on a un corps qui est super fertile. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Ça craint.
Ouais. Ouais, ouais. Surtout qu'en plus, et c'est là qu'on rejoint un peu l'argument commercial, c'est que ces pilules mini dosées, en général, elles ne sont pas remboursées et elles coûtent cher. Et du coup, ben, quand on est jeune ou quoi, on se dit, bon, ben, si le médecin nous l'a prescrit, c'est que c'est celle-là qu'il faut pour moi. Sauf que si elle coûte cher et qu'en plus, elle ne sert à rien, franchement, ça craint.
Mais il n'y a pas ce truc aussi que quand on est fumeuse, que ouais. C'est une des raisons que les médecins ils la prescrivent quand on est honnête sur notre consommation de cigarettes, ce qui n'est jamais facile.
Ouais, sauf que la question de la consommation de cigarettes ne rentre en cause qu'à partir de 35 ans ou si ça fait plus de 10 ans qu'on fume. Donc ce n'est pas tout le monde non plus qui est concerné.
En gros, quand on a 17 ans, il y a peu de chances que ça fasse 10 ans qu'on fume.
Ouais, c'est ça. Voilà, deuxième inadaptation des pilules, c'est qu'elles peuvent donc avoir des effets indésirables, hein, tous les médicaments. Et les effets indésirables qui peuvent être soit liés à des effets de... comme si on était enceinte, quoi. Ça peut être la prise de poids, des douleurs dans les seins, ou alors d'autres effets...
La nausée,
voilà.
Des trucs comme ça.
D'autres effets liés aux hormones. Et notamment une perte de libido, d'avoir moins envie de sexe.
On en avait parlé dans une de nos émissions. Ouais. Ouais. C'était un sujet assez difficile pour les femmes d'aborder, ma pilule m'enlève la libido.
Oui, parce qu'elle fait...
Il faut choisir, madame.
En gros, elle raconte au cerveau qu'on est déjà enceinte et du coup, mécaniquement, si on est enceinte, il y a un truc en moins qui se déclenche dans les glandes ou je sais pas quoi. Bref. Ça fait cet effet-là qui fait que, effectivement, ça peut vraiment baisser la libido sur les moments où on la prend.
Mais alors, du coup, ça veut
quand on raconte ça au médecin, il nous raconte que c'est psychologique et il ne nous propose pas de changer de pilule. Du coup, on continue avec cette pilule qui nous fait des effets qu'on ne veut pas. Et donc, il y a des chances qu'on arrête de la prendre à un moment où.
Parce que ça nous saoule.
Parce que ça ne nous va pas. Quoi.
Ouais.
Voilà. Et puis, autre chose de pilule inadaptée, c'est ce que je racontais tout à l'heure pour tous les contraceptifs, c'est si on s'est déjà retrouvé à vivre une grossesse non désirée sous une pilule, il ne faut pas reprendre la même, peu importe si le médecin va avoir tendance à dire « Ah, mais c'est parce que vous l'avez oublié, vous l'avez mal utilisé », on s'en fout, juste il ne faut pas reprendre la même, puisqu'apparemment elle n'est pas adaptée à notre corps, quoi.
Ou à notre façon, à notre rapport à un contraceptif. Peut-être aussi que c'est vrai que peut-être que on n'est pas, ça nous va pas de devoir penser à prendre la pilule tous les jours à la même heure. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus une tare de pas y arriver, quoi. Enfin, c'est quand même compliqué. Donc peut-être qu'il vaut mieux penser à un contraceptif qui nécessite pas de penser à ça tous les jours.
Tout à fait.
Je trouve qu'on a.
Autre grande famille de ce qui peut compromettre l'efficacité de la pilule, c'est si on arrête de la prendre parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est déréglé, quoi, qui marche pas. Par exemple, ça peut être des fois avec les pilules, on peut ne pas avoir de règles au moment de quand on arrête. En fait, si on prend des pilules qu'on prend pendant 3 semaines et après on arrête 1 semaine, des fois il y a pas de règles qui se déclenchent et du coup, on peut hésiter en se disant ah il y a un truc qui va pas, peut-être je suis enceinte et tout, et on reprend pas sa pilule. Sauf que c'est dans ces moments-là où le risque de grossesse est le plus fort, puisque c'est le temps d'arrêt et qui doit être le plus minimum possible, en fait. Pareil, s'il y a ce qu'on appelle des spottings, ça peut être des petits saignements. Si la pilule, le dosage n'est pas adapté, on peut avoir des petits saignements continus. Et c'est quelque chose qui va faire qu'on arrête de la prendre. Et que du coup, on peut se retrouver avec une grossesse. Puisque, oui, l'information importante, c'est que les spermatozoïdes, une fois dans le corps, ils restent vivants 5 jours après le rapport. C'est-à-dire, si on a eu un rapport il y a 5 jours et qu'on arrête la pilule, eh ben, peut-être qu'on peut quand même avoir une grossesse, quoi.
Bon, je vais encore être fidèle à moi-même. Je trouve ça un peu dégueulasse d'imaginer qu'il y a ces trucs qui restent vivants dans ton corps pendant 5 jours. Bon, voilà.
Bah ouais.
Je l'ai dit parce que je le pensais.
C'est suffisamment petit pour pas être visible à l'œil nu. Hein.
Oui.
Il y a plein de choses vivantes dans nos corps.
Ah bon ? Oh là là, moi je croyais qu'on était des robots.
Voilà. Et du coup, Martin Winkler, lui, il recommande carrément de prendre la pilule en continu. C'est-à-dire de ne pas marquer la semaine d'arrêt qu'on nous dit de faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pilule, quand elle a été inventée, elle était prévue pour une prise en continu. Et c'est parce que des femmes étaient gênées de ne pas avoir de cycle et de règles que du coup, ils ont créé ces pilules où tu marques un temps d'arrêt pour qu'il y ait... En fait, c'est l'arrêt de la prise d'hormones qui va déclencher un saignement.
Et donc, pour nous faire sentir qu'on continue d'être des vraies femmes, voilà, avec des règles.
Voilà, donc lui, voilà, il recommande carrément d'enchaîner les plaquettes de pilules, ou alors de ne marquer un temps d'arrêt que de 4 jours. Parce qu'en 4 jours, du coup, les hormones présentes dans le corps n'ont pas le temps de se réveiller, et du coup, ça n'a pas le temps de faire une ovulation.
Bon, bah c'est intéressant d'entendre ça parce que c'est effectivement assez à contre-courant de ce qu'on entend le plus souvent. Après, moi, ça me questionne. Je me dis que je pourrais comprendre aussi que des femmes, que ça les questionne de devoir prendre des hormones comme ça pendant 40 ans, quoi. Enfin, on imagine, tu vois, de prendre la pilule tous les jours.
Bon, moi, je trouve que ça change. Je trouve que ça change pas beaucoup de la prendre 3 semaines sur 4 ou de la prendre tous les jours.
Oui,
en fait.
Raison.
Si on a un problème avec la prise d'hormones, il faut mieux trouver un autre type de contraceptif.
T'as raison.
Voilà. Mais du coup, la petite digression, si jamais vous êtes sous pilule et que vos règles vont tomber à un moment que vous ne voulez pas, alors vous avez deux possibilités. Soit vous reprenez la plaquette d'après plus tôt, c'est-à-dire vous arrêtez 3, 4 jours et non pas 7, soit vous enchaînez carrément deux plaquettes, quoi.
Comme ça, vous pouvez aller vous baigner tranquille.
Voilà, enfin, autre chose qui peuvent faire que les pilules ne marchent pas, c'est des interactions avec des médicaments.
Ah oui,
ouais.
Quel genre de médicaments ?
Et les médicaments ne sont pas forcément, les médecins ne sont pas forcément au courant ou alors ne pensent pas à demander s'il y a incompatibilité. C'est notamment pas mal de traitements pour éviter les crises d'épilepsie.
Ah ouais.
Donc il faut vraiment faire gaffe si on prend ce type de traitement ou si on prend la pilule et qu'on a besoin de ce type de traitement, il y a vraiment des fortes incompatibilités, quoi.
Ah, je savais pas.
Ouais. Et après, il y a aussi des médicaments, notamment des antibiotiques d'utilisation fréquente ou alors des antiviraux, des anti-champignons. Enfin bon, tout ça, c'est sur le site de Martin Winkler. Il y a la liste. Alors je ne vais pas vous redire les marques, mais il fait vraiment la liste médicament par médicament. Donc pensez à la consulter si vous prenez une pilule contraceptive, parce que c'est pas dit que votre médecin il y pense, quoi. Et après, il y a deux autres petits, pas médicaments, mais des produits phyto, enfin naturels, l'huile de millepertuis, qui est utilisée notamment pour soigner les dépressions mineures, qui peut annuler, compromettre l'efficacité des pilules. Et autre substance, le gâtillier ou poivre des moines, qui lui est plutôt utilisé en Angleterre en automédication pour traiter le syndrome prémenstruel. Vous savez, ces trucs qui font qu'on a mal et qu'on ne se sent pas bien et tout ça.
Avant les règles.
Voilà. Sauf que Martin Winkler, très justement, nous dit, mais si vous êtes sous pilule et que vous voulez, vous avez des problèmes avec ce syndrome prémenstruel, le mieux, c'est encore d'enchaîner, de prendre la pilule en continu, comme ça, il n'y a plus ce syndrome.
Parce qu'on a aussi ce syndrome quand on est sous pilule ?
À vérifier. Bon.
Alors, voilà. Puisqu'on parle de Martin Winkler, qui est quand même un bonhomme assez intéressant, moi, ça me donne envie de faire la pub pour son roman aussi. Enfin, son roman, il en a écrit plusieurs, mais moi, j'en ai lu un, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Le cœur des femmes », qu'on trouve en poche, aux éditions Folio. Et qui est un roman, c'est une histoire, hein, donc voilà, il y a des personnages, on s'attache aux personnages, il y a une petite intrigue et on s'attache à l'intrigue, mais que ça se passe dans un hôpital, dans un service de gynécologie médicale, hein, donc avec un médecin qui justement parle de contraception avec les femmes, parle de leur santé au niveau gynéco. Bon, alors c'est un peu énervant parce qu'on sent que le médecin, c'est un peu le... Comment on dit Bon, c'est un peu Martin Winkler, quoi, en romancé. Et franchement, il se la pète grave. Hein. Il est trop parfait, il fait jamais une seule erreur, il écoute parfaitement les femmes. Bon, c'est un petit côté agaçant. Moi, personnellement, au bout d'un moment, j'étais... Bon, il va faire des conneries, des fois. Mais en attendant, au travers de toute cette histoire, mine de rien, il délivre des tonnes d'infos justement sur la pilule, sur toutes les méthodes contraceptives et tout. Et toutes les infos qu'il donne sont vraies. Enfin, et du coup, c'est hyper informatif. Je trouve aussi que mine de rien, on a un espèce de balayage de réalité de femme et de rapport aux vies justement de fécondité des femmes et que ça démontre plein d'idées reçues justement sur la culpabilité des femmes, sur le fait qu'elles sont un peu manipulatrices quand elles vont voir le médecin. Enfin, ça démontre plein d'idées reçues sur vraiment un peu que c'est un peu quand même une galère toutes ces histoires de contraception et de maîtrise de la fécondité et que les femmes, en fait, elles assurent du mieux qu'elles peuvent et que plus elles ont des informations claires et plus elles assurent. En l'occurrence. Et je le trouve quand même hyper bien, ce bouquin.
Et ça se lit facilement, enfin, on rentre dans l'histoire.
Ah ouais, t'entres dans l'histoire, tu veux savoir la suite, justement, c'est ça qui marche, quoi. C'est plus, pour moi, je trouve que ça a un côté plus efficace qu'un manuel, par exemple, contraception, mode d'emploi de Vinclair, c'est bien pour chercher une info précise à un endroit. Ce bouquin-là, tu le lis, t'entres dedans, du coup, t'as envie de savoir la suite, tu lis tout, et en même temps, t'apprends plein de choses, ça te pose plein de questions, ça te fait réfléchir sur plein de choses, et enfin, moi, je l'ai trouvé classe, mis à part mon petit agacement, mais bon, ma foi... C'est assez mineur. Donc Martin Vinclair, le cœur des femmes, Martin Vinclair, son site internet.
Son site, c'est assez simple, hein, c'est www.martinvinclair.com et Vinclair, Martin Vinclair tout attaché, et Vinclair c'est W-I-N-C-K-L-E-R, mais on vous remettra tout ça sur le site.
Ah ben voilà, notre émission se termine.
Sur l'agenda, peut-être, parce qu'on a quand même des infos à vous faire passer.
Tant pis,
on va dépasser un peu. Vous n'aurez pas la dernière chanson, mais vous allez avoir des choses à écouter, à regarder et à discuter dans les jours à venir.
Alors, pour commencer, si vous nous écoutez en direct, mais si vous nous écoutez en différé, vous pouvez toujours aller retrouver cette émission aussi. Faire une petite pub pour nos camarades de Lyon, de Radio Canu. L'émission On n'est pas des cadeaux, qui est l'émission transpédéguine lyonnaise, qui fait une émission demain soir, donc vendredi 3 février, sur la sexualité, L'asexualité, donc qui donne la parole à différentes personnes qui ont choisi de ne pas partager de sexualité. Donc une émission probablement passionnante que nous vous conseillons si vous ne pouvez pas l'écouter en direct vendredi 3 février sur Radio Canu, donc qui est 102.2 à Lyon, et j'imagine qu'on peut le capter sur Internet. Je pense que vous pourrez la retrouver sur notre site de partage d'émissions dont on a déjà parlé.
Radiorageuse.net, radiorageuse au pluriel, on aime bien les pluriels. Autre émission de radio à venir, alors ça c'est mercredi prochain, donc c'est le 8 février, c'est l'émission de Dégenré, donc et l'émission grenobloise féministe.
Et c'est sur la même radio.
Voilà,
donc,
sur Radio Kaléidoscope aussi, on squatte les ondes. Donc c'est sur, cette émission sera sur les violences conjugales entre lesbiennes. Voilà, donc à écouter le mercredi 8 février à 18h30, l'émission dure 1h30. Et puis il y a, comme à chaque fois, une rediffusion le lundi d'après, donc le 13 février à 19h, toujours sur Radio Kaléidoscope. Et si vous voulez écouter avec d'autres personnes, et bien c'est possible, puisqu'il y a des écoutes collectives, donc en non-mixité, hein, meuf trans et Gwyn, rendez-vous à partir de 16h à la bibliothèque féministe, donc qui est à la Baffe, aux deux chemins des Alpins. Par ailleurs, on vous a déjà parlé de ce lieu plusieurs fois.
Pour les Grenoblois et Grenobloises, toujours un rendez-vous à Antigone, qui est aussi un lieu dont on a parlé plusieurs fois, une bibliothèque, librairie indépendante et politique à Grenoble, donc 22 rue des Violettes. Mercredi prochain, on sera le...
Le 8 février également.
Eh bien oui, le même jour que Dégenré.
Vous pouvez enchaîner.
une soirée débat, discussion, présentation du nouveau numéro d'Offensive, qui est un trimestriel d'Offensive libertaire et sociale. Donc le numéro de décembre 2011 sur la libération sexuelle.
On a déjà parlé, je crois, de ce petit dossier. Alors, on n'a pas encore tout lu, mais sachez que certains articles, au moins certaines contributions, font largement débat. Donc je pense que la soirée va être animée en termes de discussion.
Ah bah c'est cool, donc voilà. Rendez-vous mercredi soir à 19h-20h.
À 20h.
20h pour une présentation de ce numéro et pour en discuter ensemble.
Voilà, c'est la libération sexuelle, point d'interrogation.
Oui.
Voilà. Et puis dernier agenda, encore une émission de radio. Alors une émission de radio qui s'appelle Calibre. Je sais pas si vous connaissez.
Calibre, ça a l'air bien.
Bon, et ben à Calibre, de temps en temps, il y a des émissions thématiques. Et la prochaine thématique, donc, c'est jeudi prochain, le 9 février, et c'est sur les modifications corporelles. Donc, est-ce que tu pratiques le tatouage, le piercing, la scarification, le branding, je ne sais pas ce que c'est, ou toute autre intervention volontaire sur la chair ? Qu'est-ce que ces pratiques peuvent transformer dans la perception de nos corps ? S'agit-il d'ornementation, de symboles personnels précis, de transgression des normes, d'imaginaire corporel en mutation vers les corps fantasmés du troisième millénaire. Et la douleur dans tout ça, est-ce qu'elle nous fait peur? Est-ce qu'on en joue? Est-ce qu'elle rajoute du sens au marquage définitif? Où en sont nos limites? Bref, toutes ces questions que vous pourrez discuter avec l'équipe de Calibre la semaine prochaine.
En appelant le 04 76 09 09 09.
Voilà, ou en envoyant un mail pour témoigner sur ces questions-là. Personne n'a appelé pour répondre au super quiz.
Mais oui, alors,
je serais tentée presque de laisser la question en suspens pour une autre émission, pour laisser le temps aux personnes qui écoutent systématiquement en différé.
C'est bien ça.
Hein, parce que jamais idée. Ils peuvent répondre.
Alors on ne va pas vous donner la réponse, mais on repose la question. Appelez-nous la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ou dans 3 mois. Tant que personne ne nous aura appelé, on ne répondra pas à cette question.
Ah ouais, le chantage. Qu'est-ce que l'axilisme? Alors, il faudra vérifier s'il y a un L ou deux, a priori deux, A-X-I, un L ou deux, I-S-M-E. Voilà.
On vous laisse ce soir, c'était Mel et Grégoire à la technique, Mimi et Marina au micro.
Et bonne semaine, à la semaine prochaine.
Ciao.
Corps,
amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.